Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.
Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous pour l'émission Livres et Amis d'aujourd'hui sur Radio Galère. Nous sommes le 13 juillet 2022, c'est l'été. C'est l'été en Provence, c'est l'été à Marseille, avec les festivals et les événements culturels. Bon, à Aix, à Arles, à Avignon, bien sûr, mais chez nous aussi. Chez nous, beaucoup d'événements en particulier de plein air. Et puis particulièrement à La Friche, d'où nous émettons, les soirées désormais bien connues de musique et de cinéma. Pour la musique, On Air, les vendredis et samedis soirs. Et pour le cinéma, Belle Étoile, les dimanches soirs. Dimanche dernier, nous avons associé musique et cinéma avec un super documentaire présenté par le FID, Pawn sans rémission de Johan Malka sur Pawn, le producteur et leader de la Funky Family. Maintenant cloué au lit par la maladie de Charcot, mais toujours actif dans la production musicale. Si vous n'étiez pas avec nous dimanche, eh bien allez sur Internet voir Pawn sans rémission, ça vaut le détour. Et dimanche prochain, 17 juillet, ce sera Pulp Fiction, un vrai classique. Et puis ensuite, Dragons, Bande de filles, etc. D'autres, déjà classiques. Donc revenons au livre avec notre lecture de la semaine, présentée donc par Françoise et Dominique. Il s'agit de Marseille ou la mauvaise réputation de Olivier Bourat. Depuis le printemps, nous avons alterné les voyages, souvent où l'on court, et les retours à Marseille avec des écrits, documentaires ou de fiction. Aujourd'hui, avec ce Marseille ou la mauvaise réputation, nous vous proposons un essai historique et documentaire de Olivier Bourat qui prend ses racines dans vraiment l'histoire de la ville, donc qui décrit les racines historiques de la ville, puis les grandes étapes de son évolution, et vient jusqu'à nos jours en analyser les principales images. Olivier Bourat a 60 ans, il est historien, il est né et a grandi à Marseille, il travaille aussi dans le Gard et dans le Vaucluse, et il a déjà publié des essais, des nouvelles et un certain nombre d'albums photographiques centrés bien sûr sur notre Grand Sud. Marseille ou la mauvaise réputation a été publié par Arléa en 1998, mais paraît cette année en édition de poche, donc Arléa Poche. C'est pourquoi nous le feuilletons aujourd'hui. Écoutons l'auteur.
Marseille est un microcosme, une réduction à moindre échelle de la France. Avec ses quartiers riches, opulents même, vers le Prado, la Corniche, son centre ancien, bourgeois ou populaire, ses rocades, ses friches, ses cités, ses ports de pêche, elle incarne toutes les fractures et tous les contrastes du pays.
Oui, Olivier Bourat recherche l'origine de la réputation, la mauvaise réputation de Marseille à travers son histoire, ses anecdotes, ses polémiques. Mais qu'on ne s'y trompe pas, s'il n'hésite pas à en évoquer les aspects les moins flatteurs, c'est souvent pour les démentir et affirmer son amour de Marseille. Alors, l'amour de Marseille, au fil des époques, l'amour de Marseille avec des images qui se succèdent ou qui se télescopent quelquefois. Le voyageur passe et ne s'attarde guère. S'il n'a, venant de la mer, quitté sa cabine assez tôt pour découvrir, radieuse et juvénile, la rade blanche et bleue comme l'étendard de la Vierge, il s'en ira, non point déçu, car il s'attendait au pire, mais rempli de dédain pour cette ville en apparence informe. Pas ou peu de monuments ici, ni palais, ni cour des comptes, ni cathédrale gothique. Le seul pouvoir que Marseille ait connu, engendré et non point subi, celui de l'argent, a construit des usines, des darses, des docks, des immeubles de rapport, une bourse. Ces choses-là, le travail et les rêves de ceux qui vécurent avant nous ont leur poésie naïve ou amère, sans doute, mais elles sont peu photogéniques et n'ont rien à voir avec l'industrie du tourisme. L'homme qui vit là, dans la lumière absinthe des boulevards bordés de platanes, ou qui longe les façades de rues interminables au bout desquelles, parfois, grésille la mer ou se révèle un village. Je ne dirai jamais qu'il ne voit rien, lui. Il voit trop. Et voir est un aveuglement. Je ne dirai pas même qu'il ne connaît pas son bonheur. Il le connaît trop bien. Mais les mots lui manquent pour exprimer la complexité ou la profondeur de son amour, de sa détresse, de sa rage aussi bien. Et l'exilé, de retour après 10-20 ans dans la ville natale, arrivé de nuit et par la route, les rocades, les banlieues, Saint-Antoine et la lumière orange, verra-t-il les rues, les quais déserts, les terrains vagues en friche, les boutiques fermées? Ou bien, comme un qui reviendrait dans Beyrouth dévastée et déchue, n'aura-t-il dans le cœur que des souvenirs heureux, la lumière du grand soleil et le mirage de la grandeur passée? Verra-t-il le présent? Pourra-t-il se l'avouer seulement? Ici, dans ce livre, il ne saurait être question que de travaux d'approche toujours recommencés. Une ville s'assiège. Sa vérité ne cède qu'à un long blocus sentimental. Mais au-delà de cet effort incessant pour saisir, comprendre, donner à voir ou faire aimer, ce qui peu à peu se dessine et transparaît, c'est l'aventure d'une ville et d'un peuple, et comme la trace de ses visages changeants. Or, ce portrait, au fil des siècles, des hommes de tant d'origines diverses ont contribué à le tracer, qu'on se trompe si on cherche ici quelques florilèges des écrivains marseillais ou une histoire de son cinéma. Il en est qui, nés à Marseille, n'en ont jamais parlé. Ainsi, Pétrone, Doré Durfé ou Antonin Artaud. Point des moindres, on le voit. L'esprit de clocher, aisément, y trouverait son compte. Mais leur partie ne se jouait pas là. D'autres, faits pour rien y comprendre, ont dit l'essentiel, ou presque. Je cherche l'image d'une ville, je la trouve mouvante aussi bien chez Zola que chez Sandrars, plus juste et même moins convenue chez Stendhal. Comment Marseille devint-elle, avec le temps, à travers l'histoire, la légende, les images et les livres, ce qu'elle est pour nos contemporains, c'est-à-dire et à tout prendre, la seule ville mythe de France, avec Paris, j'entends la seule avec Paris, qui, dans nos cœurs et nos songes, éveille et remue je ne sais quoi de profond et de fort, d'indispensable peut-être. Comment cette ville, jadis fameuse pour sa vertu, devint cette cité canaille et malfamée d'à présent, voilà ce que je cherche. Et puisque Marseille ne peut être comprise, approchée, saisie, si on ne fait à l'ombre sa juste part, on voit bien qu'il serait absurde aussi de chercher dans ce livre je ne sais quel grotesque recueil de flatteries ou d'éloges. Marseille est assez grande fille pour entendre quelques vérités. L'opprobre et la mauvaise réputation font, depuis le siècle dernier, trop bien partie de son visage pour qu'on n'en parle pas. Elle ne nous troublerait pas tant, d'ailleurs, la ville-monde, s'il en allait autrement. Voilà, ça c'était l'introduction générale. Et avant de repasser, disons, à une vraie histoire, on va s'intéresser à quelques images, quelques épisodes, en particulier ici, l'Antiquité, donc, l'Antiquité qui paraît vertueuse dans l'histoire de la Méditerranée.
Fondation, refondation, récit de fondation de Marseille, au moins on connaît cela. Une jeune fille offre une coupe d'eau fraîche à un jeune homme et, de cette union entre la princesse Ligure et le marin grec, une ville va naître. Elle débute dans la concorde et l'amour, le mélange des races. Qu'ils aient pu s'arrêter là, au milieu des rocs déchiquetés, et pour une simple source et un cap où s'abritaient des vents, cela dit assez la violence de leur misère, pourtant. Que ce fût aussi au débouché de la route de l'étain et de l'ambre ne change rien à l'affaire. Les Bouches-du-Rhône, en ce temps-là, c'était le Far West, les Gaulois des Indiens Peaux-Rouges, et eux, déjà, les premiers Marseillais, rien de plus, rien de moins que des immigrés. Grecs, cependant, et de la meilleure Grèce. Ils ont le génie de l'échange, ils ne savent créer. Ils apportent avec eux leurs dieux archaïques encore. Apollon au serpent, Artémis aux mamelles de chienne. Ils débutent et se perpétuent dans une rigueur de Quakers au Nouveau Monde. Et tandis que la Grèce vieillit et vieillissante se fait plus aimable et plus fade peut-être, Échille cédant le pas à Anacréon, Massalia demeure jusqu'à la fin, jusqu'à l'assaut des légions de César en 49 avant Jésus-Christ, fidèle aux mœurs et aux vertus des premiers âges. C'est ainsi encore que la dépeigne César dans sa vie d'Agricola.
Non, pas César, c'est pas César.
C'est César ou Tacite qui écrit dans sa vie d'Agricola « Son naturel droit et vertueux ne connut pas la séduction des mauvais exemples, parce que dès son enfance, il eut pour séjour et pour école Massalia, ville où règne dans une heureuse harmonie la politesse grecque et la frugalité provinciale. »
Oui, d'après Tacite, donc, une antiquité vertueuse, une antiquité tout de même, aux yeux des contemporains, un peu décalée. Voyons alors, si un jour vous allez à Marseille, peut-être passerez-vous par la rue Pythéas. Longue d'une centaine de mètres tout au plus, elle conduit de la place Charles de Gaulle, l'ancienne place de la Bourse, au quai des Belges. Il y a 20 ans encore, on y trouvait des bars américains, des ship chandlers et des marchands d'articles de pêche. Des boutiques aux plafonds assombris par les nasses et les giroliers, où l'on vendait des bibis, des piades, des bavarelles vivantes pour pêcher le loup. Eh oui, les bibis, les piades, les bavarelles, ça, tout ça, c'est des appâts de pêche. La lumière des néons, l'amoncellement de plomb et de chanvre sur les murs, l'éclat mat de l'alu, l'acidité des cuivres, l'odeur de graisse et de rouille donnaient à ces boyaux la fraîcheur et la paix des anfractuosités sous-marines. Dans la pénombre du fond, une bébé gobait la chair forte des violets. Mais aujourd'hui, Marseille, malgré tout, se met au goût du jour. Il n'y a plus là que des franchisés du textile et des marchands de chaussures. Ne demandez pas aux passants qui étaient Pythéas, vous seriez déçus sans doute par tant d'ignorance. Le Marseillais en général est assez indifférent à la gloire, au passé tout autant. On ne dure pas 20 siècles et plus sans un certain penchant pour l'éternité. S'ils savaient, pourtant, ils auraient une conscience claire de leur destin, qui est d'être méconnu. Pythéas, au fond, pourrait bien être, à tout jamais, le symbole de cette injustice. Comme la vertu marseillaise, elle a quelque chose qui force le respect et non point l'admiration. Au fond, on n'aime pas les peuples purs et sévères. On n'aime pas le sérieux, la rigueur, et encore moins la paix. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de César et de la guerre des Gaules, on s'étonnait de voir les habitants de Marseille arborer encore les coiffures et les vêtements des temps archaïques. Ils portaient la barbe, les cheveux longs et frisés, parfumés, vêtus à l'antique, de la tunique ionienne qui descendait jusqu'aux chevilles. Les yeux fardés, quelquefois, ils inspiraient à leurs contemporains quelques perplexités. Dans leur regard, les Massaliotes tenaient le milieu entre les Amish et les drag queens. Différents à force d'authenticité, infidèles à force de fidélité, aussi bien ils auraient pu s'intituler les derniers des Grecs, ils finirent par inquiéter. Lucain, dans la Pharsale, évoque ce bois sacré aux portes de Massalia, était-ce la Sainte-Baume ou simplement les pentes de Notre-Dame de la Garde? Lieu terrible, repère de sorcières, sanctuaire aux arbres noirs, sculpté de figurines humaines, et où, peut-être, on sacrifiait des hommes. On ne sait pas bien si l'accusation pèse sur les Massaliotes ou sur leurs voisins celto-ligures. Qu'importe. Elle révèle assez que, pour les hommes du temps, un tel voisinage avec les barbares ne pouvait, à la longue, rester sans conséquence. Et Pythéas, oui, on en parlait tout à l'heure de Pythéas, fit les frais de tous ces troubles. C'était un marin, un astronome, un explorateur. Mais au fond, on sait assez peu de choses de lui. Ni le jour de sa naissance, ni la date de sa mort, ni la couleur de ses yeux, ni le nom de sa femme. Ou s'il eut des enfants. On ne sait pas s'il aimait à manger son poisson, accommodé de fromage ou de silphium, arrosé de vin de cassis. On sait seulement qu'il calcula très exactement la latitude de Marseille et qu'il conduisit dans les années 320 une expédition maritime vers l'Islande ou peut-être la Baltique. Mais voilà, le compte-rendu de ses aventures s'est perdu. Peut-être a-t-il brûlé dans l'incendie du phare d'Alexandrie. Alors, vieille méfiance des terriens à l'égard des marins et des mercanti. Quoi qu'il en soit, dès l'origine, le ver est dans le fruit. Voici les germes de la mauvaise réputation, l'accusation de mensonge, la malchance de Marseille. Et Strabon, le géographe sérieux, ne se fait pas faute de traiter Pythéas de charlatan et de vantard. Un tartarin des mers, en somme, le premier des galégeurs. Voilà, donc dès l'Antiquité, nous dit Olivier Bourrat, la réputation, la mauvaise réputation commence. On n'est pas sérieux à Marseille ou on est un peu fantaisiste à Marseille. Et on va en revenir avec cette mauvaise réputation à d'autres images qui sont véhiculées au fur et à mesure de l'histoire à travers les épisodes de la ville. Voyons donc ce que nous raconte Olivier Bourrat dans les pages qui suivent.
De l'art de mal choisir son camp. Longtemps, elle avait su rester du bon côté du Manche. Combattant tour à tour les Gaulois, Carthage et les Cimbres, elle avait joué avec constance la carte de l'alliance romaine. À force, elle faisait figure de brillant second, incarnait une sorte de collaboration naturelle entre les civilisations grecques et latines. Sa vertu, faite surtout de douceur, de mesure, de fidélité, sa vertu un peu terne et triste, répondait à celle plus virile et grossière de Rome. Elle glanait des accessites, tout cela était fade et édifiant. Mais lorsqu'éclatèrent les guerres civiles, Massalia, en choisissant le camp de Pompée contre celui de César, commis un irréparable faux pas. Il est toujours intéressant de voir le bon élève se muer en cancre pour s'être, une fois, montré insolent. On se dit alors qu'il est fichu, mais aussi qu'il commence à grandir. Quand on n'a pas droit au premier rôle, il faut avoir du caractère si l'on veut se distinguer de la masse des moutons. Marseille passe donc, avec armes et bagages, dans le camp des rebelles, des perdants magnifiques ou malchanceux. Désormais, elle navigue vent debout. Au fil des siècles, elle peaufine son personnage de traître. Elle est pour la Ligue, elle est pour la Fronde. Ce sont des histoires anciennes, presque oubliées à présent. Louis XIV, en 1661, fait ouvrir à coups de canon une brèche dans ses remparts et pénètre dans la ville à la tête de ses troupes rangées en bataille. Ensuite, il fait construire à l'entrée du port le Fort Saint-Nicolas, un magnifique ouvrage à la Vauban, occupé aujourd'hui par la Légion étrangère et destiné bien plus à surveiller la ville qu'à la protéger. Je crois qu'il n'y a plus la Légion étrangère. Cela fait longtemps que le pouvoir central se méfie d'elle.
Le fort, il est bien là et il a bien été construit, non pas pour surveiller la rade, mais pour surveiller les Marseillais.
Elle sera révolutionnaire avec ardeur. Les fédérés qui prennent les Tuileries, le 10 août, sont de Marseille. Renoir a fait là-dessus un film qui est quelque chose.
Qui est passé hier soir.
Mais au moment
mémorial de la Marseillaise.
Mais au moment du triomphe, voici qu'elle change de camp. Ses députés sont tous du parti de la Gironde. On les arrête, on les proscrit, on les guillotine. Alors, elle fait sécession, lève une armée et entre en guerre contre la Convention, c'est-à-dire Paris, un vieux rêve. L'épisode est un peu burlesque. Au fond, ce ne sont que quelques milliers de bourgeois travestis en guerriers qui remontent vers le nord, vers Lyon, insurgés lui aussi. Le général Carteau, un ancien peintre en bâtiment, les disperse sans beaucoup de peine dans les faubourgs d'Avignon. Mais on fusille les traînards, on achève les blessés et le jeune Bonaparte, qui participe à la pauvre aventure, écrit dans le souper de Beaucaire « Mais quel esprit de vertige s'est tout à coup emparé de votre peuple ! Quel aveuglement fatal le conduit à sa perte ! Comment peut-il prétendre résister à la République entière ? Quel effet a produit dans la République le mouvement que vous avez fait ? Vous l'avez conduite près de sa ruine. Vous avez retardé les opérations de nos armées. Je ne sais pas si vous êtes payé par l'Espagnol et l'Autrichien, mais certes, Il ne pouvait pas désirer de plus heureuse diversion. Que feriez-vous de plus si vous l'étiez ? Dès lors, la trahison ne fait plus de doute et appelle, en ces temps où s'ébauchent l'esprit et les méthodes du totalitarisme, la vengeance implacable. Les troupes de la Convention entrent à Marseille. Barras, représentant en mission, pille, rançonne et fait tomber quelques 700 têtes. Son collègue, son complice, Fréron, propose au comité de salut public la destruction de la ville et le comblement du port. Entre-temps, les Marseillais ont négocié in extremis l'ouverture de la rade de Toulon à la flotte britannique. Marseille ne rate pas même la commune. Elle tombe aux mains des Versaillais au début de juin 1871. Finalement, elle s'entiche d'un Bernard Tapie déjà sur le déclin, juste pour le plaisir, dirait-on, de trébucher avec lui. De là, à force, une culture de la rébellion. Marseille aime la révolte, les votes à contre-courant, les grèves absurdes, interminables, les baroudes d'honneur. Elle aime à se poser en rivale de Paris, de Lyon, de Barcelone, de tout le monde. Elle grogne, rouspète et interpelle. Elle n'est pas d'accord. Dans nos guerres de sécession, elle est toujours du côté des confédérés. Au fond, elle aime sa solitude. D'être assiégée par César, par Constantin, par Charles Quint, d'être prise, forcée, humiliée, fait partie de son histoire et de son être. Elle est le siège et l'enfermement, comme elle est l'ouverture et le départ. Elle se complaît dans son rôle de mal-aimée et d'incomprise. Le mépris de ses adversaires lui semble toujours une preuve de leur bêtise. Et si elle tient tant à sa mauvaise réputation, c'est aussi qu'elle lui est une excuse commode pour ses échecs et ses faillites.
Eh oui, Olivier Bourras, il ne fait pas de cadeaux et surtout, il ignore certains épisodes qui, eux, seraient plus glorieux. Mais bon, nous en reparlerons. Après ce survol extra rapide du récit des loupés de l'histoire de la ville, revenons à son apparence et puis plus précisément, donc au fil des pages, à quelques épisodes. Par exemple, Arthur Rimbaud, qui nous dit, Arthur Rimbaud, évidemment, il est revenu, on pourrait dire, mourir à Marseille après ses aventures. Il nous avait dit avant, voilà la cité sainte, assise à l'Occident. Autrement dit, la Mecque ou la Jérusalem de l'Occident, c'était Marseille au XIXe siècle. Revenons sur sa réputation. Cette réputation qu'elle eut toujours d'être une ville laide. Entendons-nous, on lui concède le paysage. Quiconque le contemple avec des yeux neufs ou exempts de préjugés se doit d'en reconnaître l'exceptionnelle luminosité, le caractère. Au demeurant, le patronage de ces années-là qui fait taire toute velléité de critique. Mais on distingue entre le paysage et la ville, entre ce que la nature a donné, la rade, la mer bleue, les collines, les îles, et ce que les hommes en ont fait. Et peut-être, en effet, aurait-il pu mieux faire. Pour être tout à fait honnête, il est encore possible qu'on l'on fasse grâce à la ville elle-même, prise comme un ensemble, un des éléments constitutifs de ce panorama. Et certes, ce n'est pas rien que ce monstre usinier et populeux sur les bords de la mer d'Ithaque. Mais chacun s'accorde sur sa laideur en détail. C'est une femme qui a de l'allure, une belle passante, mais qui a les dents gâtées et le linge sale. Marseille, une ville antique sans monuments. C'est Victor Hugo qui l'a dit, et tout le monde l'a répété après lui. C'est devenu un lieu commun à force, à tel point que l'on hésite à s'en défendre. On aurait bien trop peur d'avoir l'air chauvin. Hugo, en somme, reprochait à Marseille de n'être pas un beau cadavre. Avec quelque exagération, nous le savons aujourd'hui. Mais des fouilles nous ont livré de beaux vestiges, derrière la Bourse ou dans la vieille ville. Oh, pas des temples, ni des palais, mais comme il se doit dans cette ville de marchands, des docks romains, des débarcadères, des citernes, et, fait rarissime, les carcasses de 3 vaisseaux de commerce de l'époque archaïque. Puis, nous avons appris à évaluer à leur juste valeur la vieille charité, aux murs d'ocre et de vieux roses, ce chef-d'œuvre de Pierre Puget, ou encore l'abbaye Saint-Victor, dont subsiste l'église fortifiée et la crypte. Elle fut fondée au tout début du 5e siècle pour abriter les reliques d'un martyr venu d'Égypte. Marseille, ville sans monument, c'est faux. Ou alors, entendons-nous, son monument digne, selon les critères esthétiques de notre époque, d'un tirail d'estime. Parce qu'on y a beaucoup bâti à Marseille au siècle dernier. Et la ville rassemble la plus vaste et la plus cohérente collection d'édifices Napoléon III et d'architecture néo-byzantine qui se puisse imaginer et même voir. Leur simple énumération donne le vertige, surtout si un instant on songe aux milliers de tonnes de granit, de marbre, de ciment, de porphyre, de cuivre ou de zinc que représentent tous ces bâtiments. Si on pense à leur poids, à leur lourdeur. En l'espace de 40 années environ, on a vu surgir la gare Saint-Charles, une réussite, grâce à ses verrières, à ses escaliers, au point de vue, à l'idée du voyage qui en rôde, le palais Longchamp, Notre-Dame de la Garde, la préfecture, la bourse, l'église des réformés, la cathédrale de la Nouvelle-Major, les fontaines de Castellane, de larges rues droites, une infinité d'immeubles, des églises de quartier, des casernes, des lycées, des hospices et même un jardin zoologique. Une ville entière avec son opéra, justement, dans le style du Sacré-Cœur et de l'opéra Garnier. Il est juste et sain, n'en doutons pas, de moquer les colonnades en fer à cheval, les fontaines à taureaux, les faunes, les CRS, les escaliers à double révolution du palais Longchamp. Ils évoquent trop bien le délire de quelques maîtres pâtissiers qui auraient lu l'Arioste. Notre-Dame de la Garde et la Major sont des monstres, avec leurs dômes lourds, couleur de bronze, pareils à des cloches de plongeurs, avec leurs statues géantes et hors de proportion, leurs arcs de pierre vertes et grises, et dedans l'effroyable éclat des mosaïques à mi-chemin des bains-douches et de la prothèse dentaire. Eh oui, on peut à bon droit, quand on est parisien, mépriser tout cela. Mais certains soirs de pluie, le vent d'est, qu'on appelle génois, couvre la rade et les monts alentour de nuages bleus, de nuages d'acier mobile. Le vent d'est, qui ne laisse pour toute lumière que le froissement sauvage des feuilles, apporte l'écume sur la crêpe des vagues et il pousse jusque dans les chambres, depuis les cages du jardin zoologique, le rugissement des lions. Alors, Byzance et l'outre-mer se font proches et familiers. On peut croire encore aux coupoles, aux cariatides, aux mirages et aux statues de bronze doré. Les cascades de Longchamp semblent un décor d'opéra comique, mais elles ruisselèrent d'abord dans un pays de soif où le choléra tuait. Alors, leur triomphe pompeux exprime quand même quelque chose d'une vraie joie et d'un vrai progrès. La Major est lourde et terne, cousine germaine de la gare de Metz, mais elle se dresse à deux pas de la mer, au beau milieu des cargos et des marchandises amoncelées. C'est du large seulement qu'on la voit tout entière, et la légèreté, les flèches qui lui faisaient défaut, c'était naguère encore les cheminées ou les haumas des navires. Notre-Dame de la Garde, elle, retrouve sens et équilibre, puissance et beauté, dès qu'on l'aperçoit en contre-plongée depuis le vieux port ou bien des îles. Marseille, aujourd'hui, c'est de dos qu'on la voit en dépit du bon sens. On y entre par la coulisse. C'est oublier qu'elle est vision pour qui l'aborde par la mer. Alors, elle retrouve ordre et rythme. Sur fond d'azur et de lumière aveuglante, la dorure, à nouveau, signifie. Partout ailleurs, elle est vulgaire et laide, mais ici, elle est à l'unisson du monde. Non, Marseille n'est pas une singerie de Byzance. Il fallait bien qu'elle fût barbare et chamarrée, emphatique, théâtrale, désolée par endroits, puisqu'elle devait aussi exprimer cet amour furieux et tragique de la vie du Sud. C'est la ville qui est plus belle que les monuments. Ah oui, on vous avait bien dit hein, que Olivier Bourail disait des choses désagréables de Marseille pour mieux l'aimer après. Donc, on va maintenant se retourner vers l'histoire de la ville et on va voir après l'Antiquité et les périodes sombres qui ont suivi cette antiquité, que c'est avec le Moyen Âge que Marseille reprend des couleurs, et c'est le Moyen Âge qui redonne des couleurs à son blason. Mais avant, nous allons écouter un peu de musique, et nous allons pour une fois dire « Tais-toi, Marseille !»
Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille au fond des bistrots mal famés où j'attendais pour m'embarquer. Ils m'ont raconté leur voyage, et de bastringue en bastingage, ils m'ont saoulé de tant de bruit que je ne suis jamais parti. Marseille, tais-toi Marseille, crie pas si fort, je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Depuis, j'avais dans les agences voir tous les bateaux en partance. C'est fou, je connais leur chemin mieux que les lignes de ma main. Adieu les amours en gondole, les nuits de Chine, les acropoles. La terre de France à mes souliers, c'est comme des fers bien verrouillés. Marseille, tais-toi Marseille, crie pas si fort que j'entends de claquer les voiles dans le port. Je vends mon histoire aux touristes, on fait de l'argent quand on est triste. Les escudos et les dollars, y a rien de meilleur pour le cafard. Oui, mais je garde dans ma poche un vieux billet qui s'effiloche. C'est tout mon rêve abandonné, je ne veux pas le déchirer. Marseille, mais tais-toi Marseille, tu cries trop fort, je n'entends plus claquer les voiles dans le port. Marseille, tais-toi Marseille, crie pas si fort que je puisse rêver que je quitte ton port.
Marseille, Marseille et les voiles dans le port. Marseille est restée, Marseille est partir. Oui, je vous avais choisi cette chanson pour justement toutes les contradictions qu'elle reprend bien, comme le livre d'Olivier Bourin. Et nous allons reprendre l'histoire donc de Marseille qu'il évoque avec, on le disait, le Moyen Âge et en particulier l'aura de la ville qui se manifeste à nouveau autour des croisades.
C'est aux expéditions vers la Terre Sainte que Marseille doit d'avoir recommencé de vivre. Avec les croisades et après la longue éclipse du haut Moyen Âge, la ville retrouvait sa place le long de cet axe qui relie l'Orient à l'Occident. Mais cette fois, le courant s'était inversé. Désormais, ce ne sont plus les Grecs d'Asie qui viennent vers la Gaule barbare, mais les Francs, les hommes du Nord, qui par elles s'approchent du Levant. La première croisade en 1095 avait emprunté une route terrestre longue, pénible, périlleuse à travers l'Italie, les Balkans, l'Empire byzantin. Mais après la prise de Jérusalem et la création des principautés latines d'Orient, on avait vu paraître sur les côtes de Palestine des nefs génoises et vénitiennes, des vaisseaux de Barcelone et bien sûr de Marseille. Ces peuples de marchands entrevoyaient soudain l'occasion de se rapprocher au plus près de l'océan Indien, des richesses de l'Inde et de la Chine. Ils pouvaient désormais se soustraire pour une large part à l'onéreuse tutelle de Constantinople. Sans attente, ils saisirent cette chance merveilleuse et très vite, ils se virent concédés par les princes latins des comptoirs à Saint-Jean d'Acre, à Césarée, à Tripoli ou à Antioche. Là, jouissant de la plus complète autonomie, s'administrant et rendant la justice, ils trafiquaient des épices et des parfums de l'Arabie, achetaient les tapis et les porcelaines de Chine, l'or et l'ivoire de l'Éthiopie, chargeaient le sucre, faisaient provision aussi d'idées et de connaissances nouvelles. Les chiffres indiens, l'astronomie, beaucoup de philosophie grecque et de bonne médecine. Dans l'autre sens, l'Europe vers l'Asie, ce sont des armes et des soudards que l'on exporte, et Marseille, aussi bien que Venise, s'enrichit à cet étrange trafic de passagers. Saint-Louis s'y embarqua en mai 1249, et sans doute l'opération était-elle onéreuse puisqu'il décida la création d'Aigues-Mortes, qui fut un échec, comme on sait. Cependant, ce n'était point seulement des soieries, du savoir et de la bravoure qui circulaient le long de la ligne Marseille-Tripoli via Messine. Dans ce serpiternel balancement entre l'Orient et l'Occident, auquel peut se résumer l'histoire entière de la cité, toujours il y eut une face solaire et un revers d'ombre. En même temps que l'algèbre et le papier, les rats et la peste débarquent à Marseille, à Venise. Et les nefs de Marseille n'embarquèrent pas seulement de solides pèlerins et des chevaliers naïfs et indomptables.
Oui, autour des croisades, récits merveilleux et tragiques abondent. Les disparitions sur mer sont légion. On raconte même que des armateurs marseillais auraient vendu aux barbares des enfants qui s'étaient embarqués vers la Palestine sur leurs nefs. Mais ça fait partie des mystères de la ville. Les Marseillais furent toujours trop au contact de l'autre, Gaulois ou Sarrasin, pour qu'on puisse y fier vraiment. Cette suspicion dure encore, tandis que ce maquignonnage de chérubins présumé prélude, en une étrange prémonition, à toutes les histoires de trafic, de femmes, de drogue et d'armes, qui plus tard viendront et participeront à sa mauvaise réputation. Pour les Français et les Européens du Nord, Marseille, c'est la porte de l'Orient. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve sur les grandes fresques de l'escalier d'honneur du Palais Longchamp. Exotisme pendant des siècles, colonialisme ensuite. Masque de fête à Venise, ou robe longue et turban des commerçants turcs, les costumes orientaux procurent de troublants frissons. Et cette histoire, cette légende, on la retrouve longtemps.
En 1683, les troupes du Grand Turc assiégeaient Vienne. Les flottes du roi d'Espagne et du roi de France, les galères de l'ordre de Malte, ne parvenaient qu'à peine à assurer un semblant de sécurité. La piraterie barbaresque, qu'elle fût d'Alger, de Tunis ou de Tripoli, demeurait redoutable. Quiconque naviguait entre l'Espagne et l'Italie s'exposait aux rigueurs de l'esclavage. En témoigne la captivité de Cervantes, celle encore de Saint-Vincent de Paul, ou les rocambolesques aventures des personnages de Molière. Cela confirme que Marseille est un monde de l'entre-deux, une cité de renégats en puissance. Mais aujourd'hui, cette histoire nous rappelle que les peuples de la Méditerranée n'allèrent pas toujours du sud vers le nord, qu'il y eut des Corses, des Maltais, des Gaétans, des Marseillais aussi, qui émigrèrent vers Tripoli ou Alger, et que tel qui débarque à la Joliette, nord-africain et lointain descendant d'un marin provençal ou génois, ne fait peut-être que rentrer au pays.
Oui, les échanges méditerranéens, on en avait parlé beaucoup la semaine dernière, les échanges Occident-Orient en Méditerranée, les échanges Nord-Sud en Méditerranée, on continue à en parler. Et on touche là au cœur de l'histoire de cette ville maritime, commerçante et corsaire aussi. Elle trouve son apogée avec le développement économique, avec la révolution industrielle, en particulier donc à partir du 19e siècle. Olivier Bourras explique ce développement et revient sur des éléments de l'histoire qui expliquent sa mise en place. Depuis l'Antiquité jusqu'à la Révolution, les matériaux peu à peu s'accumulent, qui feront l'histoire, mais aussi feront un jour la réputation détestable de la ville. Pour tout ce qui était depuis si longtemps en puissance, un jour se réalise. Il fallait tout d'abord que Marseille devînt une personne, une âme et un corps. Il fallait que survînt la révolution industrielle et que les hommes, enfin, ceux de Paris, de Londres, de Manchester ou de Marseille, naquissent en nombre toujours plus grand, vécussent et massent, luttassent et mourussent entre l'usine et le boulevard, dans l'espace réduit, suffocant, d'un café, d'une cour, d'une boutique, sous la pente des toits. Découvrir tout à coup que la ville est un pays, chaque ville un pays différent, et comprendre à y vivre telle forme de geste, telle tournure d'esprit qui sont une marque, comme de naître corse ou breton. Que la ville cessa de vivre de la campagne. Et oui, il fallait au XIXe siècle qu'elle ne fût plus seulement ce lieu de marché et d'échange, ce cadre agréable, polissé, où manger les revenus de la rente agricole. Il fallait qu'elle inventât désormais ses propres activités, ses métiers, ses destins. Qu'on pût y être courtier, diamantaire, concierge, porteur d'eau, sergent de ville, et ne plus avoir avec la vie rurale le moindre rapport. Les Marseillais, bien mieux que d'autres, se feront à cette vie abstraite, à cette vie laborieuse aussi, eux dont la ville se dresse au milieu du roc et de la sécheresse. Le 19e siècle de la Révolution industrielle, sera donc pour Marseille le temps de l'apogée. C'est que se conjuguent alors urbanisation, industrialisation et expansion coloniale. Marseille, premier port de l'Empire. Marseille, porte de l'Orient et fille du canal de Suez. Et ce qu'on dit alors, eh bien oui, ce qu'on voit alors, c'est la puissance de Marseille. Taine déclare, et c'est la vérité, que depuis Rome et Athènes, on n'a jamais autant bâti au bord de la Méditerranée et que Marseille se moque du passé parce qu'elle croit en son avenir. Il écrit en 1863 « C'est Marseille comme un suçoir puissant qui aspire la vie et la répand autour d'elle. 260 000 habitants et encore, elle augmente de 20 000 par an. » Et elle bénéficie de l'accroissement de l'Italie ou de l'Espagne. Elle bénéficie de l'ouverture de l'isthme de Suez. Et elle rajeunit de tous les vieux pays gâtés ou usés qui entourent la Méditerranée. Elle finira par devenir une cité de 500 000 âmes. Activité, esprit d'entreprise, on y travaille plus grandement qu'à Paris. Il continue en écrivant « Le palais du préfet qui s'achève coûtera une dizaine de millions. Les rues sont plus larges qu'à Paris. Leur différence de niveau, la hauteur des collines qu'elles couvrent, les énormes platanes branchues qui partent sur quatre rangs en 20 allées, les ruisseaux d'eau blanche courante qui descendent de toutes parts, surtout le port si vaste qu'on continue à l'agrandir, à le doubler, à le tripler, les larges constructions qui l'accompagnent, tout cela fait de Marseille une Liverpool du Midi. » Alors, oui, avec Taine, on constate la confluence de la tradition du passage et cet intérêt nouveau pour une ville de travail et d'affaires où il y a peu de choses à voir, mais beaucoup de choses à vivre. Ça apparaît vraiment comme un stéréotype littéraire, mais c'est l'image du port. Et la ville, deux siècles durant, pour le Parisien, le provincial, c'est, oui, cette véritable échappée, soudain, vers un nouveau monde. Bon gré, mal gré, on fait face au mystère et on construit, dans l'idée bien sûr, un monde radicalement autre. C'est la naissance du Marseillais. Il y a Françoise qui s'endort avec nous, là. Mais non! la naissance du Marseillais. On se réveille pour la naissance du Marseillais.
Voyageur, écrivain, il descendait la Canebière, s'embarquait, quai de l'Hôtel de Ville, pour l'Afrique ou le Levant. Fasciné par le port et les quartiers maritimes qui le jouxtent, résumant la ville entière à cette échappée sur la mer, à cette ville de commerce et de bars, oublieux ou ignorant de la vie provinciale, paisible et secrète qui se mène à quelques centaines de mètres là, vers la plaine, le Prado, les collines de la Blancarde, ils vont en aveugle inventer la figure classique du Marseillais.
Eh oui, la caricature.
Un type essentiel de l'imaginaire français qui se constitue entre 1830 et 1850. Désormais, il sera difficile pour un habitant de cette ville d'être autre chose qu'un grotesque, à moins de se renier. C'est que l'ouvrage, comme on dit, est dans l'air du temps. Bientôt, Alphonse Daudet trafiquera d'une Provence aussi authentique que l'Espagne de Luis Mariano. La France du XIXe siècle n'a plus de province comme celle de l'Ancien Régime, mais la province dont les ridicules réels ou supposés, les archaïsmes, sont donnés en pâture au badaud des boulevards de la capitale. Avec la centralisation jacobine et la révolution industrielle, qui raccourcit les distances en même temps qu'elle uniformise les modes de vie, il n'y a plus que des anomalies, des pittoresques, des retards. Des particularismes, entendez des tares. Ils sont riches et parlent patois, note Victor Hugo en 1847.
Eh oui, même Victor Hugo s'y met, vous voyez. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est le 19e siècle qui est le moment d'apogée de la ville, mais aussi la naissance de tous ces particularismes qui sont caricaturés par les voyageurs, par les Parisiens, par les décideurs, dit notre auteur, du jacobinisme. Et n'oublions pas, il est historien, il le sait, il connaît les grands courants. Il sait qu'en effet, avec le jacobinisme, se mettent en place un certain nombre d'éléments d'uniformisation. Et au contraire, Marseille résiste à l'uniformisation. Donc la résistance à l'uniformisation va constituer cette espèce de portrait caricatural qui se fait tantôt par le journalisme, tantôt par le théâtre, et qui se met en place dans une grande partie de la France, à partir des boulevards de Paris, mais qui finalement va prendre et va, là encore, être un des éléments de la mauvaise réputation de la ville. Revenons à des personnages sur lesquels ce portrait s'appuie. Le Marseillais comme anti-héros. Pythéas est un menteur, Folker méchant et un fourbe, Adramant un renégat. Certes, on ne les a pas toujours considérés comme tels, ou bien ils ont connu de tardives réhabilitations. Mais qu'importe, les jugements de l'histoire ne sont pas toujours ceux de la postérité, et les légendes ne se bâtissent pas seulement sur la vérité. Il est faux et injuste de dire que Marseille n'a pas de grands hommes. Elle en a à foison et dans tous les domaines. Mais dès qu'on s'arrête au premier couteau, à ces noms qui établissent la réputation d'une ville et lui donnent, pour ainsi dire, une couleur, eh bien, en France, il faut bien reconnaître qu'une malédiction semble peser sur la ville. Car tous ces héros, tous ceux dont elle pensait pouvoir légitimement être fière, tous ceux dont elle avançait les noms comme autant de titres à la reconnaissance de la nation, tous ceux-là finissent, parfois in extremis, par rejoindre le camp des salauds et des traîtres. Alors, deux exemples. Émile Ollivier et Adolphe Thiers. Émile Ollivier, fils de bourgeois révolutionnaire qui fréquentait Mazzini, et donc le créateur de la République italienne, enfin de la monarchie, puis de la République italienne. Émile Ollivier, donc, devient ministre de Napoléon III. Et puis, Adolphe Thiers. Toutes les villes de France un peu considérables ont une place ou une rue qui honore la mémoire du fondateur de la Troisième République. Mais Thiers est marseillais. On s'accorde aujourd'hui à le considérer comme un monstre. Il n'en allait pas toujours comme ça, il n'en est pas toujours allé comme ça, même dans les années 70. Il s'est opposé seul à la déclaration de la guerre, Plus tard, il est devenu chef du gouvernement provisoire, mais il a été contraint par Bismarck à signer le rude traité de Francfort. Il a fait, au moins, en sorte que les troupes allemandes évacuent au plus vite le territoire national, ce qui lui valut son surnom assez pompeux de libérateur du territoire. Mais entre-temps, M. Thiers avait liquidé la commune et il était devenu pour toujours l'incarnation de la bêtise, de la force, de la cruauté, de la méchanceté bourgeoise, titre auquel il postulait, évidemment, depuis le massacre du cloître Saint-Merry en 1832. Il faisait bombarder Paris, fusiller les ouvriers et les tout petits bourgeois de la capitale. Adolphe Thiers obéissait sans doute à un pur réflexe de peur, mais jamais il n'avait pu, de près ou de loin, ressembler à un partageux. Alors, il réglait de vieux comptes, il tirait vengeance d'anciennes humiliations. Lui, le petit avocat de province, le petit avocat marseillais, court sur pattes, ni très joli, ni très bien élevé, dont on avait moqué l'accent. Les communards, faut-il le rappeler, n'étaient guère populaires. Mais l'acharnement inutile et cruel qu'il manifesta contre eux, on ne lui pardonna pas. Les insurgés entrèrent dans la légende, et avoir vaincu un adversaire tel que, eh bien, M. Thiers, comme M. Olivier, ça lui a rapporté une mauvaise gloire. Alors, la mauvaise gloire, oui, de Thiers, la mauvaise gloire de tous ceux qui, peut-être, se vengent à un moment ou à un autre d'avoir été méprisés, mais qui ne sont pas les vrais héros marseillais. Et puis, de Thiers, on parle en effet en disant qu'il avait l'accent et que c'était mal vu. Alors, on va vous en parler de l'accent.
Le Marseillais a un accent. C'est là le trait essentiel de sa personnalité. Avant même de vivre, de travailler, de penser, de souffrir et de mourir comme les autres, le Marseillais parle et il parle avec l'accent. Ou plutôt, avait l'accent, comme ne manquera pas de souligner le Titi inénarrable. Cet accent, il serait vain de nier qu'il contribue pour une large part à sa réputation déplorable, qu'il est un élément essentiel de son portrait charge. On a beau dire qu'il est charmant, chantant, qu'il rappelle les vacances, entendez que dans le Sud on ne fait rien, on a beau, pour se justifier, dire qu'il n'est rien d'autre, au fond, que l'intonation du provençal transposée au français. Mais en est-on si sûr ? Il n'empêche qu'il est pour les uns la source d'une gêne ou d'une imbécile fierté et pour les autres l'occasion d'un mépris, d'un jugement global et a priori portant sur tout un groupe, c'est-à-dire d'un racisme. La plaisanterie au demeurant n'est pas neuve. Aussi vieille que l'accent lui-même, une invention du siècle dernier. On n'a pas fait l'histoire de cela, mais à l'évidence, le concept même d'accent régional ne pouvait guère apparaître avant l'uniformisation linguistique qui, en France, triomphe au XIXe siècle. Sans doute Molière fait-il patoiser ses paysans, mais on reste avec lui dans le cadre du bassin parisien entre francophones. À partir de la Révolution, c'est du breton, de l'alsacien, du provençal qui écorche le français qu'on se moque. La standardisation de la langue permet en effet la création de nouveaux clivages. Aux vrais Français de l'Île-de-France, les rives de la Loire, réputés parler sans accent, s'opposent les habitants des régions périphériques, rattachés plus tardivement et soupçonnés de participer de façon moins profonde à une francité qui commence à se définir. En ce sens, les moqueries dont Basques aussi bien que Marseillais font l'objet rejoignent évidemment celles dont aujourd'hui Portugais ou Africains font les frais. Le rapport particulièrement ludique et sensuel que les habitants de cette ville entretenaient et entretiennent toujours avec la langue ne simplifiait rien. Les Marseillais excellent à créer des vocables expressifs, mêlant allègrement le provençal, l'italien, le français, la fantaisie et l'onomatopée. Ils sont d'avant Malherbe. Le fait d'avoir l'accent constitua pour les Marseillais, et ce, quelle que fût la qualité et le niveau de leur éducation, un sérieux handicap. Cela les faisait reconnaître immédiatement et les obligeait en quelque sorte à assumer une espèce de malédiction collective. Il fallut lutter contre l'accusation de manque de sérieux et de paresse. Ce n'était pas bien agréable.
Oui, c'est vrai que l'accent ne fait pas tout, mais l'accent est la base de cette espèce de portrait ou d'image caricaturale qui va se constituer essentiellement à partir du 19e et du début du 20e siècle sur donc la tête entre guillemets du Marseillais. Cette image négative, on vient d'en évoquer quelques aspects. Cette image, vous savez, soleil et pétanque, pastis et banditisme, cinéma même, paresse, on est si bien dans notre midi, etc., etc., etc. Eh bien, finalement, ce bonheur marseillais, c'est tout un versant de la légende de Marseille, une légende dorée d'un côté et noire de l'autre. Le bonheur marseillais, nous dit Olivier Bourrat. Le bonheur marseillais, tout un versant de la légende de Marseille, la richesse de la ville autrefois, la bonté du climat, l'éblouissante beauté de la rade, tout ce qu'enfin la figure du Marseillais d'opérette avait, malgré tout, d'aimable et de facile, tout cela portait à croire qu'il fût possible. C'était un bonheur simple, bonheur de parties de cartes, de jeux de boules, bonheur d'apéritifs et de parties de pêche, de réunions de famille et de sorties entre amis, bonheur de cabanon et de canotage, de parties de loto dans les cafés l'hiver, quand le gibier, les dindes, pendaient aux devantures, perdant leur sang goutte à goutte sur la sueur. Bonheur de guinguette, de déjeuner d'oursin. Vers Malmousque, Sugiton, le massif des Calanques, c'était roche blanche tombant droit dans l'eau turquoise et le parfum des aiguilles de pin, les Cyclades à la portée de toutes les bourses. Bonheur des jolies filles brunes et de l'air chaud de l'été, du vent où palpitent les odeurs d'ambre solaire ou de crème glacée, toutes choses si bien rendues par certains écrivains, y compris dans la deuxième partie du XXe siècle, Claude Klotz par exemple. La terrasse respirait doucement, fleurs d'ombre coupées, le sable de la plage empiétait sur le pavement et des hommes enchortés faisaient teinter le bronze des pétanques lumineuses dans la fin du jour. Antoine se commanda un autre diabolo et s'accorda une gitane filtre. Eh oui, cosmopolite, tolérante par nécessité, sinon par goût, revenue de tout et faite à toute main, satisfaite de peu, n'aimant guère les chichis et l'introspection, c'était là le bon côté de Marseille, sa face aimable et lumineuse. Mais le matérialisme, surtout lorsqu'il est sincère et joyeux, bravement assumé, indispose toujours les belles âmes. L'exotisme, pour être séduisant, ne perd jamais sa force d'inquiétude. À son époque déjà, Stendhal notait que la vieille ville, le Panier, était peu fréquentée par les gens comme il faut et à peu près fermée aux touristes. Eh oui, on va se quitter bientôt sur le Panier et les images exotiques de Marseille. On vous retrouvera la semaine prochaine avec des voyages plus lointains et en attendant, bien sûr, vivez bien dans notre bonne ville, même si elle a mauvaise réputation. Malaika.